Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, Livre 2, France temps favorable, Chapitre 36e, François Ier propose la Réformation à la Sorbonne, 1534. Le dégoût qu'avait inspiré la comédie des Cordeliers d'Orléans, les quolibets dont les moines avaient été couverts au Louvre et dans tout Paris, encourageaient encore plus le roi à poursuivre ses alliances avec le protestantisme. Au reste, il n'avait pas besoin de ce nouveau mobile. La réforme proposée par Mélenchon était à ses yeux acceptable, avantageuse puisqu'elle diminuait la puissance du pape, et réformait des abus incompatibles avec les nouvelles lumières, en laissant toutefois subsister la catholicité dont le roi ne voulait point s'exclure. Dans ses conversations secrètes avec du Bellay, François Ier, mettant de côté toute réserve, reconnaissait franchement que l'Église romaine avait fait fausse voie et ajoutait d'un ton confidentiel que Luther ne se trompait pas autant qu'on voulait bien le dire. Il ne craignait même pas d'ajouter que c'était plutôt lui qui s'était trompé. Le roi de France semblait ainsi en bon train de réforme et la France avec lui. François Ier résolut de faire connaître au prince protestant son opinion sur le mémoire de Mélenchon. « Mon envoyé de retour à Paris, leur écrivit-il, m'ayant présenté les avis de vos docteurs sur la manière dont il faut procéder, j'ai conçu l'espérance de voir les affaires de la religion entrer enfin dans une bonne voie. » Du Bellay, de son côté, fort aise de l'impression faite sur son maître par les avis des théologiens évangéliques, fit connaître aux magistrats d'Augsbourg, d'Ulm, de Nuremberg, de Meiningen et d'autres cités impériales que le roi de France approuvait les doctrines luthériennes et protégerait les protestants. La réformation mélanchtonienne était donc en marche, et déjà on taillait les pierres pour l'édifice nouveau de la catholicité nouvelle. Le gouvernement français ne se contenta pas d'écrire des lettres. Chose étonnante, le souverain, l'absolu monarque, ne craignait pas de faire l'aveu de ses erreurs, d'en exprimer ses regrets. Il envoya en Allemagne une véritable palinodie. Celui qui mettait à mort les luthériens n'était pas loin de se déclarer luthérien lui-même. En octobre et en novembre 1534, un député de François Ier parcourait les villes de l'Empire germanique et disait partout que le roi reconnaissait maintenant l'erreur où il avait été quant à la religion, que les Allemands qui suivaient Luther pensaient droitement quant à la foi qui est en Christ. Les bons bourgmestres et conseillers de l'Allemagne étaient fort ébahis en entendant de tels discours et se regardaient l'un l'autre d'un air incrédule. Mais l'envoyé français les assurait itérativement que le roi de France voulait la réforme, même dans son propre pays. « L'empereur, ajoutait-il, veut contraindre les protestants par la force des armes à rester dans l'ancienne doctrine. » Mais le roi de France ne le permettra pas. Il m'a délégué en Allemagne pour former à cet effet une alliance avec vous. Telles étaient les étranges nouvelles qui se répandaient au-delà du Rhin. L'archevêque de Lunden, en ayant eu connaissance, les transmit aussitôt à Charles Quint. Quand au commencement de son règne, François Ier avait aboli la pragmatique sanction, il s'était attribué le droit de nommer les évêques et avait ainsi subordonné l'Église à l'État. Le moment lui semblait venu de faire un second pas. Il fallait supprimer les superstitions et les abus de la papauté réprouvés par les amis des lettres dont il se glorifiait d'être le patron. Satisfaire ainsi les protestants et maintenir en Europe par une sage réforme la catholicité de l'Église que les papes allaient détruire par leur incroyable obstination. Le roi se montrerait ainsi meilleur conservateur du catholicisme européen que le pape lui-même, et s'assurerait la prépondérance européenne que possédait jusqu'alors Charles Quint. Il fallait mettre la main à l'œuvre et commencer par le clergé. Le roi comprit qu'il serait imprudent de lui communiquer simplement les avis des réformateurs tels qu'ils avaient été lus au Louvre. Il résolut d'en faire une nouvelle rédaction qui contiendrait les idées essentielles. Il paraît qu'une commission nombreuse fut chargée par lui de ce travail. Guillaume du Bellay et son frère l'évêque de Paris en étaient sans doute les deux principaux membres. La commission se mit à l'œuvre, corrigea, supprima, ajouta, frappa même un peu plus fort que les réformateurs sur quelques superstitions populaires et fit ainsi un mémoire qui peut être considéré comme l'exposé de ce que le gouvernement français entendait par la réformation proposée. Les changements faits par les Français excitèrent beaucoup de mécontentement chez les protestants d'Allemagne, et Mélenchon lui-même s'en plaignit vivement. Le roi, qui portait partout le courage et l'élan dont il avait donné tant de preuves sur le champ de bataille, sembla d'abord attaquer la papauté avec la même résolution qu'il aurait mise à fondre sur une armée de Charles Quint. Il faut bien se rappeler que dans son idée la réforme qu'il préparait entraînait la cessation du schisme, que son plan devait rétablir la catholicité déchirée par l'imprudence et l'impudence romaine. Cette remarque, si l'on s'y arrête, justifie la hardiesse de François Ier. Il envoya ce projet à Rome, assure-t-on, en demandant au pape de l'appuyer ou de le corriger. On peut comprendre l'effroi du Vatican en lisant ce factum hérétique. Puis du Bellay, se chargeant de la Sorbonne, obtint une conférence avec des députés de cet illustre corps, dont toute l'énergie fut toujours employée à maintenir l'unité factice qui caractérise la papauté. « Messieurs, leur dit-il, par ordre du roi, j'ai cherché à faire en sorte que les églises d'Allemagne modérassent les doctrines pour lesquelles elles se sont séparées de l'église romaine, voulant les ramener ainsi à l'union. Je vous baille donc, par l'ordonnance du dit Seigneur, les présents articles pour recevoir de vous l'instruction sur ce que j'aurai à dire aux personnages du pays d'Allemagne. » Les députés, ayant reçu le papier de la main de du Bellay, le transmirent à la sacrée faculté. Celle-ci délégua pour l'examiner gens entendus, savants et en telle affaire exercée, qui se mirent aussitôt à besogner les 10 articles. Le secrétaire de la Sorbonne commence donc à lire les articles envoyés par le roi. Les docteurs les écoutent. Bientôt, ils se regardent. Ils se demandent s'ils ont bien entendu. La respectable compagnie est bouleversée comme la surface des mers par un vent subi de tempête. Ils connaissent François Ier. Ce prince ne conçoit pas qu'il puisse y avoir dans le royaume un corps assez hardi pour poser quelques limites à son pouvoir. Il entend qu'une parole de sa bouche soit considérée comme un décret de Dieu. Les docteurs se disent donc que si le roi veut cette réforme, rien au monde ne peut l'empêcher de s'établir. Il voit l'Église désolée, Rome perdue. C'est le commencement de la fin. Leur effroi, leur colère s'accroissent de minute en minute. Il faut que toute la sacrée faculté, que toute l'Église se lève et s'écrie « Arrêtez-vous, sire, ou nous périssons !» L'autocrate français prenait pourtant ses précautions, et tout en pensant dépouiller le pape de son pouvoir, il lui faisait une mine agréable et attribuait à d'autres qu'à lui les coups dont par ses ordres Rome était frappée. « Ce sont des articles mélanctoniens, » disaient les ministres de François Ier. « Qui ?» Mais derrière Mélenchon était du Bellay, et derrière du Bellay se trouvait le roi. Cette tactique employée alors par François Ier est de tous les temps, et si la foule s'y est quelquefois trompée, les esprits intelligents ont toujours reconnu la pensée du maître tout-puissant sous la plume du secrétaire docile. L'esprit gaulois. Le mouvement d'indépendance de François Ier n'a rien d'étonnant. Cet élan est gaulois s'il n'est pas chrétien. Il y a toujours eu en France un esprit de liberté quant à l'Église. Et les rois les plus pieux, Saint Louis même, ont su défendre contre le Saint-Siège les droits de leur peuple. Les libertés gallicanes, quoiqu'elles ne soient plus qu'une machine délabrée, rappellent pourtant quelque chose. Et ce qui est un jour délabré peut bien, un autre jour, être rétabli. Ce fut donc un esprit vraiment gaulois. Ce fut cette corde cachée qui vibre au fond de tous les cœurs généreux, de la Manche à la Méditerranée, dont le son harmonieux se fit entendre en cette importante période du règne de François Ier. Cependant, la Sacrée Compagnie avait peine à revenir de son effroi. Quoi ? Réellement, sans rêve, sans figure, l'hérésie est à la porte de l'Église de France, introduite par le roi, qui lui donne galamment la main. La Sorbonne, terrifiée, poussa le cri d'alarme et rassembla toutes ses forces pour empêcher l'hérétique d'entrer. Elle compulsait les volumes des docteurs, elle opposait les sommes de saint Thomas aux épîtres de saint Paul. Elle voulait à tout prix défendre fermement devant François la doctrine scolastique. Un brûlot incendiaire était lancé par la main coupable du roi. Ce prince imaginait-il voir l'illustre vaisseau qui depuis longtemps dominait les mers se hâter de baisser pavillon? L'équipage était vaillant, décidé à une résistance mortelle et prêt à se faire sauter en l'air avec le navire plutôt que de capituler. La lutte entre le roi et la compagnie allait commencer. Hélas, Béda n'était plus là pour la soutenir. Il fallait avoir recours à d'autres. Je cite, « fut élu notre maître Balu pour aller en cour, portant les registres, et lui fut baillé pour l'associer maître Jacques Petit. » La Sorbonne était pauvre en moyens. C'était dans le camp des Luther, des Calvin, des Mélenchon que se trouvaient les hommes forts. Ce qui se dit en cour entre maître Balu, maître Petit et le roi de France ne nous a pas été conservé. Mais nous avons le mémoire envoyé par le roi à la Sorbonne et la réponse faite par la Sorbonne au roi. Ces documents peuvent nous éclairer sur ce qui se passa dans cette conférence et nous les laisserons parler en mettant le premier sous le nom des ministres du roi. Guillaume du Bellay, l'évêque de Paris, son frère, et d'autres encore probablement, furent les hommes chargés par le roi de conférer avec maître Balu et maître Jacques Petit. Ce sont ces champions de causes bien différentes qui se réunirent alors, sans doute au Louvre, en présence de François Ier, et que nous allons maintenant entendre. Les ministres du roi. Pour établir dans l'Église de Dieu une concorde véritable, il nous faut d'abord regarder tous à Christ. Il nous faut nous assujettir à lui et chercher sa gloire et non la nôtre. La Sorbonne. Nous avons entendu le bon et saint propos de Sa Majesté, dont tous nous remercions Dieu, le priant de lui donner la grâce d'y persévérer. Simple compliment sans doute. Les ministres du roi. Rappelons-nous avant tout que les docteurs de la parole de Dieu ne doivent pas se battre comme des gladiateurs et défendre toutes leurs opinions mordicus. Il faut plutôt qu'imitant saint Augustin dans ses rétractations, ils sachent céder quelque chose les uns aux autres sans porter atteinte à la vérité. La Sorbonne. Ouvrez les yeux, sire. Les Germains veulent, contre votre catholique intention, que nous leur cédions en retranchant des cérémonies et ordonnances que l'Église a jusqu'ici observées. Ils veulent nous tirer à eux plutôt que se convertir à nous. Les ministres du roi. Vous vous trompez. D'importantes concessions ont été obtenues. Il faut, les Allemands l'accordent, que des évêques acceptent la première place parmi les ministres des Églises et qu'un pontife à Rome accepte la première place parmi les évêques. Mais aussi il faut que la puissance pontificale ait égard aux consciences, consulte leurs besoins et soit prête à leur accorder quelques relâches. La Sorbonne. Il faut surtout ne pas oublier que la hiérarchie ecclésiastique est instituée de droit divin et doit durer jusqu'à la fin des siècles, que l'homme ne peut ni l'instituer ni l'abolir, et que tout fidèle doit s'y soumettre. Les ministres du roi. Ayant établi la catholicité de l'Église, voyons les réformes qu'il faut opérer pour la maintenir. Il est d'abord des choses indifférentes, comme les aliments, les fêtes, les vêtements ecclésiastiques et autres cérémonies, sur lesquelles on doit s'entendre facilement. Que l'on se garde de contraindre les hommes au jeûne par des commandements que personne n'observe et qu'observe le moins de tous ceux qui les font. La Sorbonne. Il n'y a que des hommes corrompus par des affections dépravées qui s'y refusent. Les ministres du roi. Des docteurs de l'Église, se livrant à de pieuses prosopopées, ont introduit dans leurs discours les saints dont ils faisaient l'éloge et leur ont demandé leur intercession comme s'ils eussent été vivants devant eux. Mais il voulait ainsi exciter l'admiration pour ces saints personnages plutôt qu'obtenir quelque chose de leur intercession. Qu'on exhorte donc le peuple à ne pas transporter au saint la confiance due à Jésus-Christ. Christ veut qu'on l'invoque et il veut exaucer. Ici, l'esprit gaulois se laissait aller à une légère malice qui ne fut pas venue à l'esprit allemand et les conseillers de François Ier, décidés à frapper fort, s'écrient « Oh, que d'abus ! Que de désordre engendre ce culte des hommes! Quels discours, quels chants, quels actes que ceux du peuple lors des fêtes des saints, près de leurs sépulcres ou près de leurs images! Voyez l'empressement avec lequel une multitude oisive court alors à des festins, à des jeux, à des danses, à des rixes! Observez les pratiques de tous ces petits prêtres ignorants et avares, qui ne songent qu'à mettre un peu d'argent dans leur bourse, et puis, dites-nous si dans tout cela, Nous ne ressemblons pas à des païens et ne renouvelons pas leurs honteuses superstitions. Aucun trait de cette scène populaire sur les fêtes des saints ne se trouvait dans l'écrit de Mélenchon. Tout cela vient de François Ier et de ses conseillers. La Sorbonne. Gardons-nous d'abandonner nos antiques coutumes. Adressons immédiatement nos prières aux saints qui sont sous Jésus-Christ nos patrons et nos intercesseurs. Prétendre qu'ils n'ont pas la prérogative de guérir les maladies, n'est-ce pas s'élever contre l'expérience personnelle de votre majesté, contre le don qu'elle a reçu de Dieu de guérir des écrouelles? Rendons même un culte aux statues et aux images, puisque le 7e concile œcuménique a commandé qu'on les adore. La Sorbonne invoquant, pour soutenir les prérogatives des saints, les pouvoirs miraculeux du roi, employait un argument auquel il était dangereux de répondre. Aussi ne trouvons-nous rien sur ce point dans le discours des adversaires de la faculté. La discussion, s'éloignant de cet écueil, se porta sur l'acte qui est l'essence du dogme romain, et les prêtres furent de nouveau fustigés par la main royale, plus habile à cette œuvre qu'à guérir les écrouelles. Les ministres du roi. Il faut que l'on voie dans l'Église une vivante communion des membres de Christ. Mais hélas, qui voit-on? Une foule de prêtres ignorants et sordides, embarras de la société, fardeau de la terre, espèce paresseuse qui ne sait que dire des messes et qui, en les disant, ne prononce pas même 5 paroles sensées, préférables pourtant, selon saint Paul, à 10 000 inintelligibles. Il faut qu'on éloigne ces mercenaires, ces marchands de messes, qui ont fait tomber dans le mépris cette sainte cérémonie, et qu'on leur substitue des hommes pieux, savants, approuvés. Alors peut-être la scène du Seigneur retrouvera l'honneur qu'elle a perdu. Alors au lieu d'un vain Babil, retentiront des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Alors on chantera au Sauveur, et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô fausse confiance! Ô malheureuse illusion que celle qui porte tant d'âmes à croire qu'en assistant chaque jour à la messe, dût-on même négliger toute piété, on fait ainsi un acte utile à soi-même et aux siens, pour cette vie et pour celle qui est à venir. La Sorbonne soutint le mécanisme extérieur de l'acte sacramentel, auquel ses adversaires voulaient rendre un caractère spirituel et vivant, et défendit sans honte ni timidité les avantages matériels qui en résultent pour les clercs. La messe, s'écria-t-elle, est un sacrifice véritable qui sert beaucoup aux vivants et aux morts, et dont l'excellence repose sur la passion de Jésus-Christ. On a donc raison de faire à ceux qui la célèbrent, qu'ils soient bons ou mauvais, des dons temporels, et les prêtres qui les reçoivent ne doivent point être appelés, quand même ils sont payés, marchands de messe. Les ministres du roi abordèrent alors la doctrine si disputée de la présence de Christ dans la scène. Laissons de côté, dirent-ils, toutes les altercations qui nous ont si longtemps divisés. Confessons tous que dans l'Eucharistie, le Seigneur donne vraiment aux croyants son corps et son sang à manger et à boire, pour nourrir les âmes en vie éternelle. Qu'ainsi Christ demeure en nous, et nous en Christ. Qu'on appelle d'ailleurs ce sacrement scène du Seigneur, pain et vin du Seigneur, messe, Eucharistie, agape, sacrifice, peu importe. Le chrétien ne doit pas disputer sur les noms, pourvu qu'il possède la chose, et comme le dit un proverbe, quand on a l'ours, on n'en cherche pas les traces. La communion avec Christ s'obtient par la foi et ne se démontre pas par des argumentations humaines. En traitant de la théologie, ne tombons pas dans la mathéologie. La Sorbonne ne pouvait laisser passer ce coup donné, comme en passant, au style scolastique. Il est fort utile, dit-elle, il est même souvent nécessaire, pour l'extirpation des hérésies, de se servir des paroles qui ne se trouvent pas dans les Écritures, telles que transsubstantation, etc. Oui, le pain et le vin changent vraiment leur substance, n'en gardent plus que les accidents, et deviennent le corps et le sang de Christ. Il n'est pas vrai que la panéité ou corporéité du pain s'unisse avec la corporéité de Christ. La transsubstantation s'opère in instanti et non successive. Et il est certain que ni les laïcs, ni les femmes ne peuvent accomplir cet acte miraculeux, mais les prêtres seuls. La controverse se porta ensuite sur la confession, sur la justification, la foi, les œuvres, le libre arbitre, puis on en vint à des questions pratiques. Les ministres du roi. Les gens de bien ne demandent pas qu'on détruise les monastères, mais qu'on y établisse des écoles, et que la libéralité de nos frères serve ainsi à entretenir non des êtres paresseux, mais des hommes qui instruisent la jeunesse dans les bonnes lettres et les bonnes mœurs. La Sorbonne. Quoi ? Le pape permettrait aux religieux de sortir de leur monastère toutes les fois qu'ils le voudraient. Ceci certes nous démontre que les Germains ne cherchent que l'éversion, le renversement de toute religion. Les ministres du roi. Et qui empêche que l'on rétablisse le mariage des ministres de l'Église ? L'évêque Paphnutius ne professa-t-il pas au concile de Nicée que ceux qu'il exclut convient à la dissolution ? Dans cette grande tourbe de prêtres et de moines, il est impossible que la pureté de la vie soit rétablie autrement que par la divine institution qui date du paradis terrestre. La Sorbonne. Article tout autant périlleux que la sécularisation des moines. Les ministres du roi. En ce siècle où tout fermente, où tant de sectes lèvent en tant de lieux la tête, l'intérêt de l'Église chrétienne demande qu'il y ait une assemblée composée non seulement de prêtres et de théologiens, mais aussi de laïcs, de magistrats, probes, sensés, courageux, qui aient à cœur la gloire du Seigneur, la moralité publique et l'utilité commune. Ah, il sera facile de nous entendre si nous ne songeons qu'à la gloire de Christ plutôt qu'à la nôtre. Les docteurs de la Sorbonne ne se souciaient nullement d'assemblées où ils se trouveraient avec des laïcs, des profanes. Aussi s'écriaient-ils. Prenez garde, il est à craindre que sous ombre de se réunir à nous, les hérétiques ne machinent de séduire le peuple. N'a-t-on pas vu des assemblées, convoquées en Allemagne sous prétexte de concorde, ne produire que division, discorde et perdition infinie des âmes? Mais la Sorbonne avait beau avertir le roi, François Ier abondait alors, par politique sans doute, dans l'opposition aux doctrines soutenues par les prêtres. Il désirait se débarrasser à l'intérieur de cette suprématie papale qui prétendait diriger de haut dans son royaume la politique et la religion. Et quant à l'extérieur, il comprenait qu'une ligue avec l'Allemagne et l'Angleterre pourrait seule détruire l'écrasante prépondérance de Charles Quint. Aussi les assemblées de la Sorbonne étaient toujours plus agitées. Les docteurs se rapportaient les uns aux autres tous les bruits alarmants qu'ils avaient entendus. Il y avait des soupirs, il y avait des colères. Jamais pensait-on danger si grand n'a menacé en France le catholicisme romain. Ce ne sont plus seulement quelques sectes obscures. Ce n'était plus un Bruès, un Henri de Lausanne, un Valdo, des Albigeois, des Vaudois qui attaquent l'Église. Non. De puissants États, l'Allemagne, l'Angleterre se séparent de la papauté et le monarque absolu de la France se charge d'introduire dans son royaume des principes perturbateurs. L'Église, comme jadis son chef, est abandonnée même de ses amis. Les grands qui plus tard devaient se liguer autour des Guises gardaient alors le silence. Le rude, le puissant Montmorency lui-même semblait muet. Aussi l'agitation et l'effroi redoublaient-ils dans l'assemblée. Des ultramontains fanatiques voulaient demander au roi de réprimer l'hérésie par la force, de maintenir les dogmes romains par les flammes et par le fer. Quelques catholiques plus modérés, voyant avec douleur la catholicité qui leur était si chère déchirée par le schisme, cherchaient des moyens plus rationnels de rétablir l'unité abolie par la Réformation. Tous comprenaient que l'ennemi était à la porte et qu'il fallait se hâter de la fermer. Hélas, ce n'était plus seulement aux hérétiques qu'ils avaient affaire. Tous les esprits en Europe et surtout en France étaient frappés de l'exemple que venait de donner le roi d'Angleterre, et les membres du parti romain croyaient que François commençait la même chose dans son royaume. Il y avait bien une différence entre les systèmes de ces deux princes. Henri voulait le dogme romain et non l'évêque de Rome. François acceptait l'évêque de Rome mais rejetait le dogme romain. Toutefois, les deux réformes, étant l'une et l'autre un grand coup porté au système du Moyen-Âge, on les regardait comme identiques. Le succès que le plan de Henri avait eu en Angleterre garantissait celui que le plan de François aurait en France. Les deux monarques qui régnaient des deux côtés de la Manche étaient aussi absolus l'un que l'autre. Les docteurs romains, voyant que leur controverse n'avait pas réussi, résolurent de s'y prendre d'une manière plus habile et, sans avoir l'air de repousser toute union avec l'Allemagne, d'opposer aux hérétiques une fin de non-recevoir. « Sire, dirent-ils à François Ier, vos très humbles créatures et très obéissants sujets de la faculté de théologie vous prie de demander aux Germains s'ils confessent que l'Église militante, qui a pour chef sous Jésus-Christ Saint-Pierre et ses successeurs, soit infaillible en la foi et bonne mœurs. S'ils entendent lui obéir comme ses sujets, s'ils veulent admettre tous les livres contenus en la Bible, ainsi que les décisions des conciles, des papes et des docteurs. Obéissance au pape et à la tradition, sans discuter des dogmes, tel était le sommaire de leur controverse. Cela ne réussit pas. Les docteurs de la faculté, voyant bien que le roi leur faisait défaut, se rendirent vers le nonce du pape. Ils le trouvèrent tout tremblant lui-même. Ils se mirent à rechercher péniblement ensemble le moyen de retenir la France dans la communion avec le Saint-Siège. François Ier se montrant sourd aux arguments théologiques, la Sorbonne et le nonce tombèrent d'accord qu'il fallait en employer un autre. Le prélat se rendit donc au Louvre, et portant avec lui un épouvantail que la Sorbonne lui avait insinué. « Sire, dit-il, ne vous y trompez pas, les protestants porteront atteinte à l'ordre civil comme à l'ordre religieux. Le trône est en danger tout autant que l'autel. L'introduction d'une religion nouvelle doit introduire nécessairement un gouvernement nouveau. » C'était bien là, en effet, la meilleure façon de traiter l'affaire. Le nonce avait trouvé le joint. Aussi le roi fut-il un moment ébranlé. Mais la conduite du pape le raffermit. Rome se mit alors à procéder contre Henri VIII comme elle l'avait fait jadis contre les rois du Moyen-Âge. Cette conduite outrageante pour la dignité royale rejeta François Ier du côté de la Réformation. « S'il y a danger pour le pouvoir royal, pensait-il, c'est des deux parts qu'il se trouve. » François Ier crut même que le péril était plus grand du côté de Rome que du côté de l'Allemagne, puisque les protestants de ces contrées montraient à leurs princes la soumission la plus loyale, le respect le plus religieux et le plus profond. Il se dit que tandis que le pape voulait que le roi d'Angleterre fût privé de tous ses états et que ses sujets cessassent de lui obéir, la réformation que ce prince avait accomplie n'avait porté aucune atteinte à ses droits. Que l'on parlait en effet d'insurrection contre Henri VIII, mais que c'était de Rome et par des agents romains qu'elles étaient suscitées. Des hommes éclairés insinuaient à François Ier que tandis que la papauté imposait au peuple l'esclavage et au roi les émeutes et les révoltes, la réformation procurait au roi l'ordre, l'obéissance et au peuple la liberté. Il semble avoir été convaincu, pour le moment du moins. « L'Angleterre et moi, dit-il, nous avons coutume de tenir ensemble, de traiter nos affaires d'un commun accord, et nous y persisterons. » Ce nouveau mouvement de François Ier donna du courage aux évangéliques. Ils espérèrent qu'il irait jusqu'au bout et ne laisserait pas au pape la petite place même qu'il entendait lui réserver. Si un prince tel que Louis IX avait au XIIIe siècle maintenu les droits de l'Église gallicane, si un roi tel que Charles VII avait au XVe rétabli les libertés ecclésiastiques, ne verrait-on pas au XVIe, dans ce renouvellement universel, un monarque tel que François Ier émanciper la France du joug romain? Il venait, avec de grands sacrifices, de faire beaucoup pour le Wurtemberg, et il ne ferait rien pour son royaume. Les amis de la Réformation s'excitaient l'un l'autre à concevoir les plus belles espérances. « Oh, que la position est bonne » disait-il. Ils ne se rencontraient plus à l'université, à la campagne, dans les rues même, sans se féliciter. Selon eux, les choses vieilles étaient passées. Mais il y avait d'autres évangéliques, des hommes plus décidés, plus scripturaires, qui regardait d'un œil défiant ses pourparlers mystérieux entre François Ier et les protestants de l'Allemagne. Ces beaux discours de Du Bellay, cette étonnante conférence de Bar-le-Duc, tout cela était à leurs yeux de la politique, de la diplomatie, mais nullement de la foi. Ils s'inquiétaient, ils s'alarmaient, et réunis pour prier dans d'obscurs conventicules, ces humbles chrétiens se disaient l'un à l'autre avec effroi, « Satan jette ses filets pour attraper ceux qui ne se tiennent point sur leur garde. » Examinons les couleurs qui le déguisent. Étonné, et même dans la détresse, il demandait s'il n'était pas étrange de prétendre, comme Mélenchon, qu'aucun homme de bien ne saurait protester contre la monarchie de l'évêque romain, et que moyennant certaines réformes, il faut se hâter de la reconnaître. Non, l'épiscopat romain ne se réformera pas, pensait-il. Remaniez-le tant bien que mal, et toujours de nouveau il manifestera son esprit dominateur, reprendra ses anciennes allures et les fera prévaloir même par le feu. Il faut prendre garde. C'est d'un oui et d'un non qu'il s'agit entre Rome et la Réformation, le pape ou Jésus-Christ. Ne pouvant vaincre l'Église nouvelle en champ clos, on prétend l'étouffer en l'embrassant. Dalila veut endormir sur ses genoux le prophète que les hommes forts n'ont pu dompter avec des courroies et avec des cordes. Sous prétexte de garantir la réforme des mauvaises influences, on veut la mettre comme la plante des champs dans quelque endroit sans lumière et sans air, où décolorée, étiolée et sans vie, elle périra. Grâce à la protection de la reine de Navarre, le noble et fier coursier qui aimait à bondir dans les prairies va être conduit dans les écuries du roi et on l'y couvrira d'un magnifique harnais, mais sa bouche sera déformée par le mors, ses flancs entamés par l'éperon et les tresses même de ses crins attesteront son déshonneur. Cet avenir n'était pas réservé à la réforme. Tandis que la douce et prudente voix de Mélenchon et de Bucer l'endormait, innocemment sans doute, une autre voix plus libre, plus hardie, celle des Farel et des Calvin, s'apprêtait à la réveiller. Tandis que les papiers des théologiens conciliateurs étaient étalés sur le tapis de velours de la table royale, un autre papier, dont les lignes de feu semblaient écrites par la foudre, allait être affiché dans tout le royaume, attaché même à la porte de la chambre du roi par une main trop hardie, et causer à ce prince l'une des plus terribles colères dont l'histoire ait gardé le souvenir. Un grand coup de tonnerre se ferait entendre, et à la pesante atmosphère qui étouffait les esprits, succéderait un air vivifiant et pur. Il y aurait de furieuses tempêtes, mais les chrétiens de la réformation scripturaire, pratiques, radicales, se disaient qu'il valait mieux vivre au milieu des ouragans qui réveillent que des vapeurs méphitiques qui plongent les hommes dans le sommeil de la mort. Nous raconterons plus tard l'événement qui eut une influence si notable sur les destinées de la Réformation en France. Ce furent des Français qui le provoquèrent. Ce fut un Français qui en fut le principal auteur. Mais c'est de la Suisse, nous le verrons, que ce coup redoutable devait partir, et c'est là qu'il nous faut maintenant retourner.